Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Le Salon du chocolat ouvre ses portes demain, ça se passe à Paris et vous allez voir que le secteur a su s'adapter à nos besoins et inventer de nouveaux produits. Le froid est là, il est arrivé et si vous voulez la bonne température chez vous, vous pouvez faire appel à Delta D'Or. Son truc notamment, c'est le thermostat connecté. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis pour chasser la grisaille, quand le plafond est un peu trop bas comme en ce moment et que le soleil n'est pas au rendez-vous, la solution, c'est Espaciel. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole sur Europe 1. Venez nous dire si vous consommez par exemple beaucoup de chocolat et comment vous l'aimez, si vous faites attention aussi à sa provenance et à son mode de fabrication. On vous attend, Anissa.
Bah oui, c'est le standard des gourmands aujourd'hui sur Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. On lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur Europe 1.fr.
Oui, parce que demain, le Salon du chocolat va ouvrir ses portes à Paris. L'occasion de découvrir tout un monde autour du cacao. Alors pour accueillir nos invités, j'ai à mes côtés, comme chaque jour cette semaine, Maude Descamps. Bonjour Maude.
Bonjour Raphaël.
Et puis le coach du jour, Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron. Bonjour Nicolas.
Bonjour Raphaël.
Un fidèle parmi les coachs, avec sa tablette d'ailleurs. Et oui, parce que vous aussi.
La tablette de chocolat.
Tablette de chocolat. Oui. Tablette. Faites bien de le préciser. Tablette que j'ai là, à la main. C'est la nouveauté. Elle sort demain, c'est ça?
Elle sort demain.
Et on l'a en exclusivité sur Europe 1.
Ouais.
Avant Emmanuel Macron.
Et voilà, je vous dirai une petite chose après parce qu'on va essayer de réconforter le président dans le cours de l'après-midi.
Bon, vous allez lui en amener, c'est ça, à l'Élysée?
Oui, on l'amène au chef Gomez qui a toujours été d'un soutien incroyable, mais on en amène aussi au président, à Brigitte Macron, parce que en ces temps difficiles, là, les premiers jours d'hiver, il faut des douceurs pour retrouver de l'énergie.
Ah oui.
Et là, on a pensé à lui, voilà, comme on pense à nous.
La marque du consommateur, bon et responsable. Prix conseillé, 1,71€, voté par les consommateurs, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que quand on parle chocolat, tout le monde a sa préférence, noir, au lait, avec ou sans noisette, et puis il y a les puristes, il en faut donc évidemment pour tous les goûts. Bonjour Mathieu Escande.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez lancé en 2014 le chocolat des Français. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Parce que vous sortez de Sciences Po, vous avez fait les arts déco, et puis vous décidez comme ça de vous lancer dans le chocolat. Vous étiez passionné déjà par le chocolat.
Alors, j'ai fondé le chocolat des Français avec Paul-Henri Masson et Vincent Murer,
oui,
mes deux associés. Et c'est vrai qu'on était des grands gourmands. Et on avait envie de créer les tablettes de chocolat de nos rêves.
C'est quoi la tablette de chocolat de vos rêves alors?
Bah, c'est déjà un chocolat très gourmand, avec plein de choses à l'intérieur, vous l'avez dit, des noisettes, du caramel, du sel de Guérande, parfois de Camargue, et puis des emballages magnifiques, parce que un peu comme pour un bon vin qu'on ne va pas boire dans un gobelet en plastique, on voulait que les tablettes de chocolat soient magnifiques, d'un point de vue aussi extérieur.
Parce que à l'époque vous ne trouviez pas ce qui vous plaisait dans les rayons en poussant la porte d'un chocolatier, c'était soit on va chez l'artisan, soit on choisit le chocolat industriel et vous trouviez que c'était un peu trop, enfin que ça manquait d'originalité.
Exactement, en fait c'était soit très bon et un peu sérieux, un peu chiant, soit très beau et pas très bon. Et nous, on voulait réunir le bon, le beau et le made in France.
Ah oui, parce que c'est vrai que Maude, quand on regarde, on est quand même bon consommateur de chocolat en France.
Oui,
hein.
on mange un peu plus de 7 kilos de chocolat par personne par an. On n'est pas les champions en Europe. Hein. On est les cinquièmes seulement. Il y a les Allemands devant nous, 11 kilos par personne par an.
Ah ouais.
En France, il s'est vendu en 2016 390 000 tonnes de chocolat. En termes de chiffre d'affaires, le chocolat, c'est 3 milliards 480 millions de chiffre d'affaires par an. C'est 110 euros à peu près par personne par an.
Alors, ce qu'on n'a pas dit, Mathieu Escande, c'est que vous faites travailler évidemment les artisans chocolatiers, c'est eux qui vous fournissent, c'est du 100% naturel, c'est du 100% made in France.
Ouais, alors tous nos chocolats sont 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, 100% naturel et évidemment sans conservateur. Et là, toute notre gamme de tablettes est passée, elle est issue de l'agriculture biologique. Donc voilà, on est hyper fiers.
Les barrettes, elles viennent des Hauts-de-France.
Voilà, exactement.
Les amandes, les ailes du sud-est,
l'ouest,
évidemment.
Le sud, l'est, on fait travailler vraiment des petits ateliers, des petits artisans. On valorise le savoir-faire français. C'est un clin d'œil à nos amis belges et suisses qui font le meilleur chocolat industriel qui soit, mais pour l'artisanat, c'est en France qu'on trouve le meilleur chocolat.
Qu'est-ce qu'il dit le coach ?
C'est bien dit ça, hein, c'est-à-dire qu'on leur laisse le chocolat industriel, mais nous, on fait quand même le très bon chocolat artisanal. Non, mais nous, on adore. Alors, à la base, faire du marketing sur un produit, c'est pas tellement notre sensibilité. Mais le chocolat, il y a une dimension de rêve, quoi. C'est-à-dire que c'est un plaisir absolument incroyable. Personne ne remet en question ça. Le rendre plutôt sympa, joli, esthétique, ça n'enlève rien. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut que l'histoire en dessous du papier soit bien une belle histoire. Donc ça, c'est important d'y veiller. Vous avez fait quelque chose sur la partie équitable ou pas encore?
Alors, on met pas tout en avant, mais c'est vrai qu'une partie de nos chocolats sont équitables. On met pas en avant, on met vraiment le côté déjà artistique. On veut être à la réunion entre la gourmandise et l'art. On met en plus le côté biologique et on est vendu en fait dans tous les meilleurs endroits, les plus beaux endroits.
Un million de tablettes vendues hein, quand même cette année, c'est ça ? Je ne me trompe pas sur les chiffres ?
Oui, c'est à peu près ça.
Et vous changez pas mal les formats aussi, vous avez vraiment envie d'innover Ça, c'est important. Vous parliez de l'écrin tout à l'heure. Vous avez fait travailler des artistes, artistes français notamment.
Alors, on travaille avec beaucoup d'artistes français, mais en même temps internationaux. On reçoit énormément de demandes via Instagram. On a un énorme compte sur le chocolat français. Et il y a un renouvellement aussi bien. Alors, on garde des recettes simples et gourmandes, mais au niveau de l'emballage, en fait, on travaille comme dans la mode. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, différents artistes, on va s'appuyer. Là, on sort notre collection de Noël en avant-première au Salon du Chocolat.
Oui, votre truc, c'est quand même la tablette. Hein. Je parlais tout à l'heure de la barrette, mais votre chocolat préféré, c'est la tablette. On en consomme sous toutes ses formes ou c'est vraiment notre truc à nous, français?
Non, c'est vraiment notre truc à nous. Les tablettes, c'est 33% des ventes totales de chocolat aujourd'hui en France. Derrière viennent les confiseries à base de chocolat et puis ensuite, c'est la pâte à tartiner, le cacao en poudre et enfin, les barres chocolatées vraiment en dernier.
Et puis, il y a des nouveautés. Je crois qu'on peut l'annoncer. Le MoMA, ça y est?
Ouais, tout à fait. On va être la seule marque alimentaire, donc de surcroît de chocolat, distribuée par le MoMA, donc le musée d'art moderne de New York.
C'est une belle chose. Marier la gastronomie avec la réputation internationale et la mode, là, j'avoue que mon envie de belles histoires indispensables laisse une petite place aussi à ça.
Aujourd'hui, l'ambition, c'est aussi, Mathieu Escande, arrêtez-moi si je me trompe, d'aller vers un chocolat 100% fève française. Ça, c'est important. Est-ce que c'est possible? Il faut pour ça relancer la filière, notamment dans les dom-toms. Vous avez commencé à le faire. Hein.
Ouais, depuis le tout départ, on est avec Paul et Vincent engagés dans la réimplantation des cacaoyers en France. Alors évidemment, ça pousse pas encore ni à Nice ni à Marseille, ça pousse principalement en Martinique et en Guyane. C'est long, mais on espère sortir très prochainement une première mini-série de tablettes de chocolat issues de fèves 100% françaises.
Eh bien écoutez, on sera là en tout cas quand ça sortira. Vous restez avec nous, on va continuer à parler chocolat sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1.
Et pour fabriquer le chocolat, il faut évidemment un savoir-faire, celui que possède notre prochaine invitée. Elle est maître chocolatier du côté d'Angers. Une passion héritée de ses parents. C'est ça, la France qui bouge. À tout de suite sur Europe 1.
À l'occasion du Salon du Chocolat qui va ouvrir ses portes dès demain à Paris. Aujourd'hui, on parle du chocolat et la France aime le chocolat. La France fait du bon chocolat. On en parle avec vos invités, Raphaël Duchemin. Vous pouvez vous aussi poser vos questions, venir nous parler de vos chocolats préférés au 39-21, 50 centimes la minute et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Nicolas Chaban, notre coach, et avec Maud Descamps qui m'accompagne cette semaine. Alors c'est vrai qu'il y a tous ceux qui achètent leur chocolat en tablette, nous en parlions au supermarché notamment, et puis ceux qui poussent aussi la porte des boutiques spécialisées. Maître chocolatier, en voilà un beau métier. Bonjour Anne-Françoise Benoît.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes à la tête de Benoît Chocolat, une entreprise créée en 1975, tout simplement par vos parents.
Absolument, oui. Ils étaient précurseurs à l'époque, parce que le chocolat n'existait pas vraiment en tant que tel, en tant que chocolaterie pure, il n'y en avait
vous
pas
dites,
tant que ça.
Ça n'était pas à la mode à l'époque, le chocolat?
Non, il y avait des pâtissiers qui faisaient du chocolat, et principalement à Noël, mais pour vendre du chocolat toute l'année, c'était pas vraiment à la mode. Non, il y avait Robert Lynx qui a monté la maison du chocolat à Paris.
Voilà. Une chocolaterie pure, voilà. Hein, c'est comme ça que vous l'appeliez?
Oui, parce qu'il ne faisait que du chocolat en fait. Il n'y avait pas de pâtisserie
à Angers.
Voilà.
Vous avez toujours voulu prendre leur suite ?
Non, pas du tout en fait. Je dirais qu'en tant que fille de commerçant, j'ai vu surtout les problèmes et les difficultés du métier. Donc je me suis dirigée vers des études de sciences éco. Et puis finalement, au moment où eux ont souhaité lâcher, disons, un peu l'affaire, j'ai repris le flambeau parce que finalement, le chocolat, j'aimais ça et je ne l'avais jamais vraiment quitté. La maison, bah, on peut dire mère et père d'ailleurs. Voilà.
Dites-moi Maud, il y en a beaucoup des chocolatiers en France ?
Alors, des chocolatiers en France, il y en a pas mal. Il y a 120 entreprises de chocolaterie. 90% sont des PME, ça c'est intéressant. Et au total, le secteur du chocolat en France emploie environ 30 000 personnes.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour devenir maître chocolatier, Anne-Françoise Benoît, vous avez eu du mal parce que vous n'aviez pas de CAP, vous étiez une femme. Or, c'est un monde d'hommes, encore voilà. Aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, même
un
si c'est beaucoup moins vrai, oui. La preuve, c'est que j'ai été longtemps une des rares femmes à être citée dans le guide du club des croqueurs de chocolat. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui m'ont rejoint, et tant mieux.
Mais il a fallu batailler.
Il a fallu batailler quand moi, j'ai repris en 97. Oui, il n'y avait pas beaucoup de femmes chocolatiers.
Alors, vous avez repris, et aujourd'hui, vous avez deux boutiques à Angers, une à Paris.
Une à Paris.
Combien est-ce que vous employez de personnes aujourd'hui ?
Alors, dans l'année, on est 20. Et puis, comme je travaille de façon, au jour le jour, forcément, quand arrive la période de Noël, on augmente la production et par conséquent, on embauche. Et là, on passe
jusqu'à
à 30 personnes.
35
personnes, oui, la semaine de Noël, oui.
Nicolas Chaban.
J'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres, mais puisqu'on a une experte avec Madame Benoît, qu'est-ce qui fait qu'un chocolat est bon ou moins bon? Il y a bien des choses, mais quoi dans les grandes lignes?
La première des choses, c'est des matières premières. Ça, c'est évident que si vous utilisez des mauvaises matières premières, vous n'arriverez jamais à un produit fini. Bon, après, il y a aussi le fait de le faire de façon régulière. Nous, chez nous, c'est vrai qu'on arrive quelquefois à des moments où on est en rupture. Moi, la semaine de Noël, il n'y a pas toujours toute la gamme parce que je travaille au jour le jour avec des produits frais. Et ça renforce la qualité du chocolat et du produit fini. Ça, c'est indéniable.
C'est incroyable.
Vous dites, on est encore des artisans, nous, les chocolatiers.
Oui, en tous les cas, moi, je suis encore un artisan. Ça, c'est sûr, parce que c'est fait de façon encore très manuelle. Moi, je fais encore mon praliné, c'est-à-dire que je reçois mes noisettes, mes amandes, je les caramélise, je les broie.
Vous arrivez tôt, hein, le matin.
Donc, mes journées sont...
C'est ce que m'a dit mon petit
doigt. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a pas forcément toujours beaucoup de femmes, parce que c'est très compliqué d'un point de vue familial aussi. C'est vrai que moi, à Noël, mes journées commencent très tôt. Je suis dans mon laboratoire à 2h, et puis après, je passe en magasin. Enfin, j'ai toutes les casquettes aussi du petit chef d'entreprise, en fait, aussi. Hein.
On a une question pour vous, Anne-Françoise Benoît. C'est Laurent, qui est à Angers, évidemment, qui vous connaît et qui nous dit qu'en est-il de ces ventes au Japon ? Est-ce que c'est un marché très différent d'une autre ? Alors, on va expliquer qu'au Japon, vous vendez notamment ceci, les caramandes. C'est votre spécialité, c'est vous qui l'avez créé. Ce sont des triangles. Si vous nous suivez, évidemment, sur europe1.fr, vous pouvez le voir. Une petite boîte en triangle orange avec à l'intérieur des triangles au lait et au chocolat noir. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?
Alors ça, ce sont des amandes caramélisées au beurre salé. À Angers, on est proche de la Bretagne, donc au sel de Guérande, et qui sont enrobées de chocolat au lait et chocolat noir.
Et alors, c'est un marché particulier, le Japon ?
Alors oui, c'est un marché particulier. Alors, je vous entendais dire tout à l'heure qu'il fallait une histoire. Là, pour le coup, c'est une vraie histoire. Il n'y a pas eu de démarche marketing sur ce produit-là. En fait, c'est parti un peu du hasard et d'une demande d'un client angevin, notamment restaurateur. Et après, finalement, les Japonais sont venus à nous et c'est vrai que jamais je me serais imaginé aller au Japon vendre mon produit. Et ça, c'est plutôt la belle histoire. Quoi.
Le coach Nicolas Chaban.
Ça rajoute au plaisir de savoir qu'un chocolat est fait par quelqu'un qui le fait de façon traditionnelle, depuis des générations, que les matières premières sont bonnes, qu'à l'autre bout, un petit producteur vit bien de son métier. Cette histoire-là, c'est pas l'histoire pour l'histoire. Hein, c'est qu'elle soit belle et qu'effectivement, on puisse la raconter. C'est universel, les histoires qui ont du sens. Ouais.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quand on veut aller à l'export, grossir, on prend le risque parfois de perdre en qualité ?
Alors, nous, c'est pas ce que l'on souhaite. Justement, c'est pour ça que je préfère refuser certaines commandes que de dire, bah voilà, je vais inonder le marché. Alors après, c'est très difficile de refuser aussi la demande parce que je frustre forcément un certain nombre de personnes. Alors voilà, c'est aujourd'hui, la croisière des chemins.
Ils aiment
comment
un autre
faire,
chocolat japonais que le nôtre ?
Non. Non, je sais pas. En tous les cas, le Japon, c'est le chocolat français, c'est.
Il y a beaucoup de chocolatiers français qui sont allés effectivement.
C'est le summum pour eux
travailler sur le marché japonais. Maud, justement, il y a de nouveaux marchés aujourd'hui où le chocolat s'exporte.
Bien sûr, dans tous les pays qui ont connu une forte croissance économique ces dernières années, je pense à la Chine, à l'Inde, la Russie, le Brésil. Pour vous donner une petite idée, l'Inde, par exemple, entre 2011 et 2016, le marché du chocolat a connu une croissance de 50% de plus, 50%. Donc on voit qu'il y a encore des marchés pour les entreprises françaises notamment.
On reste ensemble, on continue à parler chocolat sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si on cessait de transformer la matière première pour croquer du chocolat cru? On va tester le raw chocolate avec deux R et c'est un Français qui le fait. À tout de suite sur Europe 1.
Une émission très gourmande hein, aujourd'hui jusqu'à 14h. La France bouge, la France aime le chocolat, la France fait du très bon chocolat. Et demain, c'est l'ouverture du Salon du chocolat à Paris. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous recevez les plus grands spécialistes dans le domaine, Raphaël Duchemin. Et vous pouvez témoigner, n'hésitez pas, venez nous parler de votre chocolat préféré. 3921, c'est le standard. Et Twitter avec le hashtag Europe 1 pour poser également toutes vos questions.
Toujours à mes côtés, Maud Descamps qui m'accompagne cette semaine et le coach Nicolas Chaban avec son chocolat, le chocolat de C'est qui le patron, hein, il sort demain, vous allez le trouver. On vient de le tester d'ailleurs, on l'a fait tester. Attention, alors, pas par n'importe qui, on a un maître chocolatier.
Et donc...
c'est Anne-Françoise Benoît qui vient de croquer. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce chocolat qu'on va trouver demain?
Oui, bien.
Bien, bien.
Ah, bien. Bon. Oh, ouais.
Très bien.
Peut-être par les consommateurs.
Non. Ça alors, manque un peu de caramande, mais c'est bien.
Évidemment. Mathieu Escande est toujours avec nous, Anne-Françoise Benoît, maître chocolatier à Angers. Et on va accueillir notre troisième invité. On a l'habitude de manger le chocolat en carré, en tablette, hein, on l'a dit. À la base, on oublie qu'il y a la fève, le cacao, c'est ça, la matière première. Et c'est elle qui vous a inspiré, Frédéric Marre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a deux R à la fin de votre nom. Il y en a trois dans le raw chocolate que vous avez lancé. C'est quoi le raw chocolate? C'est du chocolat cru, c'est ça?
C'est du chocolat cru. C'est l'idée de se passer de la torréfaction, de revenir vraiment à l'origine du cacao, tel qu'il peut être encore consommé par des tribus dans lesquelles le cacao pousse naturellement, et de refaire des produits gourmands en s'affranchissant un petit peu de toute l'historique du cacao conventionnel qu'on connaît aujourd'hui, qui est sur la base de la torréfaction, le fait de brûler les fèves avant de les broyer.
Donc je l'ai là, à la main, ce raw chocolate, chocolat cru. Si je croque dedans, je n'aurai pas donc de torréfaction. Je vais avoir le goût du chocolat à l'état pur, qui a séché au soleil, c'est ça, et qui a été broyé ensuite.
Oui, alors d'abord, il a été fermenté de manière spécifique. Au-delà des fermentations habituelles du cacao. Et surtout, on va ensuite les laver, les fèves, avec de l'eau et des huiles essentielles pour pouvoir avoir une garantie bactériologique accrue sans utiliser la torréfaction.
C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus amer.
Alors, ça peut être fort si on
en
mange
cas,
du 100%. On a du 100%.
C'est du 100% celui-ci.
Non, ça c'est du 90%.
90.
Il y a un tout petit peu de sucre tout de même, on le fait en 100%. Ça c'est une fève de cacao qui est enrobée de chocolat.
Comment est-ce que ça vous est venu cette idée? Racontez-moi. Mais,
en fait, de deux manières, je m'intéressais moi à ce qu'on appelle l'alimentation vivante, l'alimentation crue, le fait de s'alimenter avec des produits qui n'ont pas subi de transformation par la chaleur pour en conserver un maximum de nutriments.
Qui marchait déjà pas mal aux États-Unis notamment.
Ça existe aux États-Unis bien sûr depuis les années 70, aujourd'hui il y a à peu près 50 marques de chocolat cru aux États-Unis, mais qui sont, on va dire, sur des milieux nutritionnels assez pointus et qui se sont pas tellement intéressés au goût. Et en parallèle, j'étais en Amazonie pour complètement autre chose et j'ai fait l'expérience de goûter des fèves de cacao d'une qualité très particulière. Et moi, je viens de l'alimentaire, j'avais une expertise sur la fermentation et la germination des algues et des végétaux et j'ai appliqué ça en fait au cacao. Et l'idée, c'était de... je suis français, je suis parisien et le chocolat cru tel qu'il existait aux États-Unis me convenait pas, d'une part parce qu'il était fait aux États-Unis et que j'habite à Paris, mais surtout parce qu'en fait, gustativement, c'était pas très pointu. Et l'idée, ça a été de réconcilier l'excellence gustative et nutritionnelle.
Alors, du coup, vos fèves, elles sont pas françaises, mais elles viennent d'où?
Peut-être demain qu'elles seront françaises d'ailleurs, hein, si
Mathieu Scand arrive à relancer. Je suis également en contact avec les filières de Guadeloupe et de La Réunion. Pour l'instant, elles viennent d'Amazonie péruvienne.
D'accord. 2018, combien de tonnes produites?
2018, on ne sait pas encore, mais si on sait entre 5 et 6 tonnes.
Oui. 5-6 tonnes, vous disiez, c'est ce que fait Patrick Roger, qui était
semaine,
tout à l'heure
crois,
d'ailleurs sur Europe 1 en une semaine. Nicolas Chaban, ça vous inspire ça?
Oui,
ça vous parle.
On en a parlé, tout ce qui est naturel et le plus direct possible, c'est merveilleux. On en a parlé juste avant. Il y a toujours, quand des nouveautés arrivent, des petits sons de voix un peu discordants. On a parlé aux États-Unis de ce problème de salmonelle avec le chocolat cru. L'idée, c'est de rassurer tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet?
Alors moi, ça fait 30 ans que je crée des produits alimentaires. Donc bien évidemment, quand je me suis lancé dans le chocolat cru, la première chose, ça a été de garantir une sécurité bactériologique. Donc aujourd'hui, j'ai des analyses et j'ai une garantie bactériologique qui vient du fait que moi, je prends la fève à la base. Les problématiques qu'il y a aux États-Unis et qui ne va pas peut-être commencer à y avoir en France, c'est quand des chocolatiers se disent « Ah ben moi, c'est facile, je vais faire du chocolat cru, je vais prendre mes fèves de cacao qu'on m'a vendues pour la torréfaction et je vais les broyer directement. » Ça, c'est pas possible. C'est un peu comme quand les Japonais sont arrivés en France et qu'ils ont voulu remplacer la sole meunière par les sushis, ils n'ont pas acheté leur saumon aux mêmes endroits que les Français. Parce que quand on veut travailler à cru, il faut intervenir dès la production pour pouvoir garantir la sécurité bactériologique.
Je vois Anne-Françoise Benoît acquiescer. Vous êtes d'accord sur le processus important?
Oui, c'est effectivement le processus. C'est la mode actuellement du bean to bar et c'est vrai qu'on en parlait avant de rentrer dans le studio. C'est vrai qu'il faut.
Alors, c'est le point. C'est de la fève à la tablette,
voilà,
hein, c'est ça.
C'est le point, critique et c'est un autre métier, quoi. Bravo. Voilà.
Maud,
oui, j'ai une petite question de gourmande. Faites-nous rêver. Vous mangez combien de chocolat par jour, chacun?
Alors, moi le matin très tôt parce que j'en mange en le fabriquant en fait. Une fois que je suis après en boutique, j'en mange plus, mais je le mange en le fabriquant d'abord pour m'assurer qu'il est parfait. Et puis oui, j'ai le palais le matin mieux.
Mathieu Scand?
On en mange énormément en fait. Déjà,
vous comptez pas quand on aime, on compte pas.
Et puis toute l'équipe en mange, donc à chaque fois il y a quelqu'un qui a envie de sortir une tablette et de la partager, donc c'est sans arrêt.
Moi, je mange à peu près 5 à 10 fèves de cacao. Je mange directement les fèves de cacao. Là, pour le coup, c'est vraiment un aliment, comme on peut manger des amandes ou des noisettes. Ensuite, je fais des infusions. En fait, je bois plus d'infusions de cacao. En fait, je fais infuser les fèves comme on fait avec du cacao. Et après, sur le chocolat, bien sûr, j'en mange. Après, vous dire combien? J'évite d'en manger tous les jours, mais j'en mange bien, je pense, 100 ou 150 grammes par semaine.
On va continuer à le déguster ensemble, ce chocolat ou ce cacao. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
On vous attend aussi 39-21. Consommez-vous du chocolat français? Faites-vous attention à ce qu'il y a sur l'étiquette. À vous de partager avec nous. C'est Europe 1, c'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Raphaël Duchemin, aujourd'hui on s'intéresse au chocolat. Le salon du chocolat ouvre ses portes demain,
oui,
à Paris, forcément. Alors nous on le prépare, ce salon, avec les Français qui sont les meilleurs dans le secteur, ceux qui ont la cote. Ils sont vos invités aujourd'hui. Et puis on attend toutes vos questions, vos réactions. Vous le savez, cette émission c'est la vôtre. 39-21 c'est le standard, 50 centimes la minute. Et Twitter avec le hashtag Europe 1.
Avec Maud Descamps à mes côtés, avec le coach Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, qui lance demain son chocolat de C'est qui le patron en grande surface, qui va aller l'apporter d'ailleurs tout à l'heure à Emmanuel Macron à l'Élysée. On a aussi avec nous Mathieu Scand, cofondateur du Chocolat des Français, Anne-Françoise Benoît, maître chocolatier à Angers et dirigeante de Benoît Chocolat, et puis Frédéric Marre, chocolatier à Raw Cacao Factory, une fabrique de chocolat cru. J'ai des questions pour vous, et oui, parce que ça commence à arriver. J'ai d'abord des félicitations, vive nos artisans d'Angers, nous dit Elisabeth. Elle écrit évidemment d'Angers, bien
merci,
sûr.
Hein.
Jean-Michel qui nous dit sur Twitter avec le compte d'Europe 1 et le hashtag Europe 1, quand j'achète chez un chocolatier, oui, pour le reste, je sais pas, à la question évidemment, consommez-vous du chocolat made in France? Alors ça, c'est pas mal quand même. Quand j'achète chez un chocolatier, oui, pour le reste, je ne sais pas. Ça veut dire que Jean-Michel, quand il pousse la porte d'un chocolatier, il sait que c'est français. Mais en revanche, quand il achète dans un grand magasin, il ne regarde pas la provenance. Ça vous étonne? Qui veut répondre, Mathieu Scand? Faudrait qu'il regarde quand même, c'est marqué sur les tablettes.
Oui, c'est exactement, c'est noté. Normalement, il y a écrit soit Made in France, soit même Origine France Garantie.
Mais le chocolat vient toujours Évidemment, en dehors de France, hein. C'est Pérou et on
va dire le cacao, pas le chocolat.
Cacao, pas le chocolat.
Oui, le cacao. Pardon.
Le cacao.
Mais c'était pour vous fassiez rire.
Alors, on a aussi le strapontin qui nous dit le chocolat, c'est tellement bon. On est bien d'accord. On a testé. Et puis j'ai évidemment des questions à vous poser. On va peut-être accueillir Annie. Annie qui est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle est votre question, Annie? Vous nous appelez de Mélan.
Oui, ben c'est pas une question en fait, c'est simplement vous dire que moi je suis une grande fan de chocolat noir,
oui.
Que je n'ai jamais mis un sucre dans mon café, mais par contre j'ai toujours mangé un carré ou deux de chocolat avec, mais je voulais vous dire que je les ai tous essayés, moi je regarde la Providence, hein. On a beaucoup de bons chocolatiers autour de Grenoble, donc c'est vrai que ça m'arrive de prendre des chocolats de chez un chocolatier, mais ça m'arrive aussi de les acheter en supermarché. Et je regarde la provenance, j'ai tout essayé, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les Caraïbes. Et je voulais simplement signaler que je viens de découvrir deux nouvelles provenances qui sont un petit peu plus originales. La première, c'est un chocolat qui vient du Vietnam et il a été effectivement conçu par deux Français expatriés qui le vendent un chocolat très, très racé, très bon, très... variant en fonction du terroir, parce qu'ils ont plusieurs plantations. Et ma dernière découverte, c'est du chocolat de Madagascar, qui est à la fois fin, acidulé, qui est très très bon.
Voilà, alors, autour donc, de la table, Annie, je peux vous dire qu'on a des connaisseurs et qu'ils opinent tous du chef. Vous connaissez Vietnam et Madagascar, les deux,
oui,
Mathieu Escant, Frédéric Mar. Oui, tout le monde connaît. Oui. Et ce sont des Français en plus
Au Vietnam, oui, c'est Marou, oui, mais c'est un Français. Ouais.
Alors justement, sur la provenance du chocolat, on a la production de cacao. Est-ce qu'on peut demain imaginer effectivement en rapatrier une partie en France? On a commencé à le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec peut-être le changement climatique, va commencer à devenir possible?
Alors si avec le changement climatique on fait du cacao en France, il va y avoir un gros souci. Non, ça restera a priori assez proche de l'équateur. Peut-être qu'effectivement la ceinture équatoriale où pousse le cacao va s'élargir, mais non, avant que ça arrive en France, non, il y a un plan au Jardin des Plantes, mais il a jamais donné la moindre tablette de cacao.
qui sont les producteurs de cacao essentiellement? Alors, Maud,
les deux plus gros producteurs sont d'abord la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Et on voit aussi de nouveaux pays se lancer dans la culture de cacaoyers. Mais il y a aussi un gros problème aujourd'hui, c'est que les cacaoyers sont attaqués par de plus en plus de maladies et d'insectes, ce qui pousse de nouveaux pays à se développer dans la culture, justement pour pouvoir être sûr de produire suffisamment de fèves.
Ça veut dire qu'on pourrait venir à manquer de chocolat ou en tout cas de matières premières?
Certains parlent d'une pénurie possible. Alors entre 2020 et 2050, parce qu'il y a une forte hausse de la demande, on l'a dit, avec les nouveaux marchés émergents, et puis les cacaoyers qui ont de plus en plus de contraintes.
Frédéric Mar.
Deux choses. D'abord, l'Afrique, effectivement, est le plus gros producteur, mais ce n'est pas un pays de cacao à la base. Le cacao en Afrique a été implanté par les colons au XVIIe siècle. Le berceau du cacao, c'est l'Amérique latine, uniquement. C'est les colons qui ont planté après le cacao en Afrique, en Asie et ailleurs. Et sur la question de la pénurie, je vous invite quand même à regarder des investigations qui ont été faites sur le sujet. Il y a aussi une histoire de négoce derrière très importante. Voilà. Et est-ce qu'il y a réellement pénurie ou semblant de pénurie? Je vous laisse investiguer. D'autres l'ont fait déjà.
Nous, on est allé voir à notre humble niveau de consommateur. On est allé en Côte d'Ivoire et on s'est dit qu'on voulait aller au-delà de la coopérative jusqu'au petit producteur, avoir son nom, se rendre bien compte que les centimes lui parvenaient, voir aussi ce qu'il pouvait en faire, même s'il est tout à fait libre de le faire. Laurent Pasquier est allé là-bas. On a fait une petite vidéo et on va le faire régulièrement. Il faut s'assurer que le petit producteur à l'autre bout gagne sa vie. Sinon, il va faire plutôt de la palme, ou du palme, je sais pas comment on dit, et il y aura peut-être une pénurie plus grande encore.
Alors justement, j'ai une question de José qui nous demande, qui est à Sanary-sur-Mer, qui a composé le 3921 et qui nous dit, existe-t-il des chocolats avec au moins 85% de cacao mais sans graisse saturée? Anne-Françoise Benoît?
Oui, ça existe. Enfin, je pense que vous êtes plus à même de répondre.
Ça existe, c'est de plus en plus courant et je pense que chez tous les artisans chocolatiers, c'est le cas d'ailleurs. Cette polémique, elle concerne plutôt le chocolat industriel, où effectivement, il y a eu des ajouts de matières grasses d'autres que le cacao, mais en plus, aujourd'hui, c'est encadré par une législation.
Et puis, il y a Jacques qui nous appelait des Yvelines et qui nous dit « Je regrette le chocolat Meunier que l'on trouve désormais que très rarement. C'était un véritable empire à l'époque. J'ai vécu toute ma jeunesse à Champs-sur-Marne. C'est gravé dans ma mémoire. » On peut faire revivre comme ça des marques qui ont
qui ont été finalement.
Je ne sais pas ce qui se passerait si vous la faisiez revivre aujourd'hui, parce que les palais ont quand même évolué. Quand vous regardez l'évolution, bien sûr, de Bria Savarin, les taux de sucre ont heureusement énormément baissé. Et je pense que le chocolat meunier aujourd'hui serait peut-être pas si apprécié que ça, parce que c'était énorme et c'était quand même très très sucré.
Ouais, c'est que c'est lié à l'enfance. Le chocolat, c'est toujours lié à l'enfance. Et vous allez aimer un certain type de chocolat et d'autres, un autre type. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment la Madeleine de Proust, en fait. Et c'est ancré. Il y a un goût pour chacun d'entre nous avec un type de chocolat.
Et vous le constatez, vous aussi, oui, je suppose, Anne-Françoise Benoît.
C'est vrai que l'évolution des goûts évolue. C'est vrai qu'on va plus vers le noir, un peu plus fort. Ça a été au départ des phénomènes de mode et maintenant, c'est aussi gustativement moins de sucre. La clientèle réclame ça, oui, ça c'est évident.
Sachant juste que c'est vraiment, en France, c'est un peu comme le café qu'on est les plus grands consommateurs de chocolat noir. En Europe, c'est plutôt du chocolat au lait et plutôt typé un peu sucré.
Alors, j'ai une dernière question. Je vous demanderai d'être très rapide parce qu'évidemment, le temps court. De Fille d'Avril qui nous dit, faites-vous de la vente à distance pour vos chocolats? Question pour vous, Anne-Françoise Benoît.
Oui, on a un site en ligne, évidemment. Donc,
un site en ligne, Benoît Chocolat.
Benoît Chocolat. Hein.
Mathieu Escande, même chose.
Bien sûr, vous retrouvez toutes nos tablettes, nos barrettes, notre super calendrier de l'avant sur lechocolatdesfrançais.fr.
Et vous,
oui, bien sûr,
évidemment,
pareil,
pour
on
le
raw chocolate. RRRAW.fr, boutique en ligne, worldwide.
Merci à tous les trois d'être venus
merci
nous parler
beaucoup,
chocolat.
Raphaël.
C'était bien agréable et bien croquant ce midi.
Il est 13h39.
Europe 1.
Restez avec nous, les premiers froids sont là et pour chauffer votre intérieur, il y a aujourd'hui les thermostats connectés. Depuis 48 ans, Delta d'Or est sur ce marché du pilotage de chauffage. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h et tous les jours, vous donnez la parole à une entreprise qui va bien, Raphaël, et celle d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est de saison.
Effectivement, nous sommes toujours avec Maud Descamps qui m'accompagne,
bien
toujours
sûr.
Avec le coach Nicolas Chabanne qui est avec nous aujourd'hui. Et l'entreprise qui va bien, figurez-vous qu'elle est bretonne. Bonjour Pascal Portelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire de Delta d'Or. Delta d'Or, au départ, quand tout commence, dans les années 70, à Bonnemains, en Ille-et-Vilaine, c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance électronique. Et puis, très vite, les Renault, parce que c'est eux qui démarrent cette entreprise, se tournent vers le pilotage du chauffage. Ils ont été précurseurs.
Absolument, ils ont été précurseurs.
Alors, visionnaires même.
C'est pas un hasard si ça s'est passé en Bretagne, parce que la Bretagne, c'est une péninsule, et en fait, on a très peu de production électrique en Bretagne, donc il y a un ratio production-consommation qui est très défavorable. Et donc, économiser de l'énergie, ben, c'est important. C'est un problème local, c'est un problème mondial, mais on l'a vu en Bretagne très tôt. Alors, un des premiers produits qu'a fait Delta d'Or, ça s'appelle un délesteur. C'est un petit appareil que vous mettez qui coupe le courant, qui coupe certains appareils pour tenir votre budget. Voilà, vous dites, je veux pas dépenser plus de tant de kilowatts. Ben, on va couper un radiateur, puis un autre, de façon intelligente pour pas que vous ayez froid. Mais vous allez tenir vos dépenses de chauffage.
Ouais, c'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, le médiateur de l'énergie vient de dire qu'il y avait 30% des Français qui baissent leur consommation parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Donc, c'est vrai qu'il y avait un véritable marché.
Il y avait un véritable marché. Alors, on est passé de couper des radiateurs toutes les 30 minutes. Maintenant, il y a des choses plus intelligentes. On s'adapte à vos besoins. Donc, on peut couper des pièces. On sait si vous êtes dans une certaine pièce ou pas. Ou vous dites, je ne veux pas couper tel appareil. Et puis, on prend ça en compte. On apprend vos préférences au mode de vie, on fait ça de façon de plus en plus intelligente.
Oui, ça fait 40 ans que vous faites des thermostats, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça au départ. Aujourd'hui, ils sont connectés, vous avez développé votre activité, mais avec toujours l'emprise territoriale, toujours la Bretagne en toile de fond, si j'ose dire.
Absolument. Bah, écoutez, petit clin d'œil à la Bretagne, nos produits, ils ont tendance à s'appeler avec un TY, un T, ce qui veut dire maison en breton. Donc vous allez avoir, par exemple, la box s'appelle Tidom, comme la maison et le domicile. Et puis tous les autres produits.
Rennes, Bonnemains, ce sont les deux.
C'est entre Rennes et Saint-Malo. Il y a trois centres en Bretagne qui sont pour l'essentiel entre Rennes et Saint-Malo.
Ouais, vous êtes aussi à Grenoble, vous êtes aussi
Absolument.
En Vendée, à Paris, évidemment.
Tout à fait.
Vous êtes arrivé en 2017.
Tout à fait, je suis tout nouveau.
Oui.
Alors je ne suis pas breton d'origine, mais je suis breton d'adoption et on est vite adopté.
Il suffit de changer, de mettre un ti quelque part dans votre nom. Vous arrivez, c'est un gros changement parce que les Renault passent la main, ça reste plus dans la famille. Ils sont toujours là.
Ils sont toujours actionnaires, ils sont toujours présents au conseil de surveillance. Donc c'est effectivement pour eux c'est un acte, c'est pas anodin de passer la main à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Donc ils ont beaucoup réfléchi avant de me choisir et puis on a beaucoup parlé et en fait on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs vraiment très proches. Moi toutes les valeurs de l'entreprise familiale, je m'y reconnais. On se projette dans le temps, c'est le temps long, hein, on n'est pas une entreprise cotée en bourse.
Vous avez une stratégie à 10 ans.
Absolument.
Alors c'est quoi cette stratégie? Qu'est-ce que vous allez faire dans les 10 ans qui viennent?
Alors on a une mission. Vous savez, on parle dans la loi PAC des entreprises de mission, nous c'est dans l'ADN. On considère qu'on n'est pas là juste pour...
Vous êtes là pour durer.
On est là pour durer et on est là pour supporter la transition énergétique. On pense que c'est important, c'est un enjeu de société. Et on fait des produits, des solutions pour aider la transition énergétique. C'est plus juste économiser de l'énergie, c'est aider à l'utilisation des renouvelables. Bon, les renouvelables, c'est super, c'est décarboné, sauf que c'est intermittent. Voilà, où le soleil brille pas la nuit, le vent souffle pas tout le temps, et donc il faut arriver à utiliser l'énergie quand elle est disponible. On peut la stocker un peu, mais moins on la stocke, moins on a besoin de construire des batteries, d'épuiser le lithium qu'on a pas infiniment sur la Terre. Donc, ça fait partie de notre mission.
Le coach, Nicolas Chaban.
Merci Raphaël, parce qu'encore une entreprise très intéressante à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un marché qui est en train d'exploser. Hein. J'ai vu des chiffres absolument incroyables. 30% de progression, et j'ai même l'impression que ça sera beaucoup plus. Comment se passer d'une intelligence qui nous permettra d'économiser de l'argent et d'économiser les ressources de la planète? Vous allez doucement, c'est un choix d'entreprise, mais vous pourriez aller bien plus vite finalement, la demande doit être immense.
On va doucement, alors c'est pas parce qu'on se projette à 10 ans qu'on va nécessairement doucement, mais on prend le temps d'investir, voilà, on n'est pas là, au contraire, comme on se projette à 10 ans, s'il faut investir beaucoup l'année prochaine, si ça dégrade un peu les résultats, c'est pas grave, on n'est pas coté en bourse, on va pas avoir des actionnaires qui nous mettent la pression. Quand je dis à la famille, écoutez, désolé si l'année prochaine il faut investir plus, ils me disent mais il faut pas être désolé, évidemment qu'il faut faire ça, la question se pose même pas.
Voilà. Donc, et on va terminer peut-être par donner quelques chiffres parce que c'est important. Pascal Portelli, vous employez 860 personnes, oui. Un tiers de votre chiffre d'affaires est réalisé aujourd'hui à l'export et vous avez équipé 3 millions de logements individuels et 10 000 sites industriels, c'est
absolument.
Bien ça?
Et on fait 4,5 millions d'objets connectés par an. Et ils sont non seulement conçus en France, mais ils sont tous fabriqués en France. 100% made in France. On peut faire de l'électronique en France et être performant. Alors ça veut dire beaucoup investir. On a mis beaucoup de robots. Et je voudrais dire une chose, contrairement à ce que certains pensent, les robots, c'est pas l'ennemi de l'emploi. Plus on a mis de robots, plus on a embauché.
Et oui, voilà. Ça peut accompagner le travail, c'est important de le préciser. C'est Deltador, c'est l'entreprise qui va bien. Merci, merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur
Europe
1.
Il est 13h47.
Europe 1. Vous trouvez peut-être qu'on manque de lumière avec le changement d'heure et les premières grisailles. Eh bien, Espaciel est la solution. C'est la France qui bouge.
La France bouge tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h avec votre complice Maud Descamps. Raphaël Duchemin, vous nous présentez une solution. Celle d'aujourd'hui, c'est une idée lumineuse.
Oui, et nous sommes toujours aussi avec notre coach Nicolas Chaban qui tweet en ce moment même. Nous sommes passés à l'heure d'hiver, n'est-ce pas Nicolas? On sent déjà le manque de lumière. Maud, des Lillois ont trouvé la solution. C'est pas un hasard que ce soit à Lille, dites-moi.
Exactement. Ça s'appelle Espaciel. Espaciel, c'est un réflecteur de lumière. Alexis Hervé, vous êtes l'un des cofondateurs. Bonjour. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça sert. C'est une sorte de miroir, c'est
alors
ça?
On l'a là, hein, pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr. Il est là, le miroir.
Donc c'est un réflecteur de lumière pour l'éclairage naturel, pour les logements qui manquent de luminosité. Eh bien, ce produit vient tout simplement se placer devant la fenêtre ou sur un balcon ou dans la terrasse, devant une fenêtre ou une porte-fenêtre. Il capte la luminosité du ciel et il la retransmet dans votre intérieur pour gagner en lumière naturelle.
Et c'est tout simple à mettre en place, quoi. Il ne faut pas être bricoleur.
Exactement, c'est le gros intérêt de ce produit qui est totalement nouveau. On est pionnier de ce produit-là. Et le gros intérêt, c'est justement qu'on peut l'installer en quelques minutes, soi-même, sans faire de travaux, pour 200 euros par fenêtre.
Je le disais en plaisantant, mais le fait que ce soit à Lille, c'est ça qui vous a inspiré? Il y avait un plafond un peu bas assez souvent.
Alors, figurez-vous que je voudrais partager ça avec tous nos auditeurs. Il y a beaucoup de lumière, y compris à Lille, et en particulier
attention,
aujourd'hui avec la grisaille.
Hein, on est l'endroit
bien,
le plus ensoleillé de France.
Alors effectivement, on associe souvent lumière naturelle et soleil. Eh bien, avec le froid qui revient, avec la grisaille que l'on recommence à subir, eh bien, ce ciel qu'on a gris, il délivre 10 fois plus de lumière que ce dont on a besoin pour s'éclairer. Et donc ce que l'on propose, c'est tout simplement de se servir. on a froid, on a envie d'être à l'intérieur, d'être bien. Eh bien, ce bien-être en lumière naturelle, on peut tout simplement aller le prélever dehors. Il est là tous les jours, il est gratuit, donc profitons-en.
C'est né d'une expérience personnelle, ce...
Tout à fait, tout à fait. Le premier réflecteur, je l'ai fait dans ma cuisine, pour chez moi. Je n'avais pas le projet de devenir entrepreneur, mais finalement, l'idée s'est imposée à moi-même. Et puis, il y a eu un cheminement comme cela qui m'a permis de créer mon entreprise à Lille en 2013 et d'être accompagné par énormément de gens qui nous ont aidés à transformer cette idée en projet puis en entreprise.
Le coach,
les
Nicolas Savane.
Les miroirs dans les chambres, c'est l'origine de cette idée. Non, je blague. En tout cas, vous dire, c'est une idée absolument extraordinaire. C'est tellement simple. À chaque fois qu'une idée est géniale, on se dit, mais bon sang de bois.
Pourquoi
c'est tellement
est-ce qu'on y a
une évidence.
Tout, oui.
C'est
tellement
Bravo évident. Pour cette idée. Ouais.
Merci. Merci infiniment.
Ça coûte combien aujourd'hui, ce miroir?
Alors, ce réflecteur de lumière coûte entre 80€ et 400€ en fonction du modèle.
Ça dépend de la taille.
On a défini toute une gamme de solutions qui ont des tailles différentes en fonction des ouvertures. Comme je le disais tout à l'heure, le produit s'adapte aux fenêtres, aux portes-fenêtres. Et on peut, par exemple, transformer son balcon. Si on habite en cour intérieure à Paris, on n'a pas le soleil, eh bien, on peut simplement aller prélever la lumière du ciel et la renvoyer chez soi grâce à un réflecteur pour quelques dizaines ou centaines d'euros.
Ça peut être mat ou ça restera toujours comme ça?
Alors le réflecteur a un effet miroir, ouais, qui permet de rediriger très efficacement la lumière. On est 30% plus efficace qu'un simple miroir. Ce n'est pas du tout en verre, donc c'est extrêmement léger. Ça pèse 5 fois moins qu'un miroir et c'est surtout incassable et avec des conceptions de fixation extrêmement sûres, extrêmement fiabilisées.
Alors ça fait 2 ans que vous vous êtes lancé. Vous avez notamment été financé par une opération de crowdfunding. Vous en êtes où aujourd'hui?
Alors le crowdfunding pour nous c'était vraiment une opération naturelle parce que dans la mise au point du produit, nos premiers clients nous ont énormément aidés à imaginer la solution. Et donc par rapport au financement de l'entreprise, ça nous a semblé normal de nous rediriger vers notre communauté, nos amis, nos premiers clients, nos proches, pour participer au financement de l'entreprise avec une levée de fonds que nous bouclons actuellement sur la plateforme Sovifond.
Et on parlait des matériaux, c'est fabriqué en France?
Alors c'est totalement made in France, essentiellement sur l'île avec des entreprises de la région Nord, la région Hauts-de-France pardon. Et effectivement c'est ce réseau industriel local qui nous permet d'avancer sur cette innovation.
Et on vous trouve en magasin, on vous trouve.
Alors on est distribué principalement sur le site espaciel.com, mais on démarre également la distribution avec des partenaires comme le BHV, Laura Merlin, Nature et Découverte sur leur marketplace. Et donc voilà, ça devient très simple de s'équiper pour profiter de ces bienfaits en lumière naturelle.
Moi j'ai une petite question, environnement, est-ce que c'est un produit qui est responsable d'un point de vue environnemental?
Ce produit, nous on l'a vraiment conçu pour durer. Le produit est fait pour résister plus de 10 ans dans un environnement extérieur. On est sur des matériaux nobles, de l'aluminium, de la céramique, et il n'y a pas de collage. Tout est assemblé avec des dispositifs qui permettent, en fin de vie, de recycler chaque composant individuellement, très simplement.
C'est la solution du jour. Elle s'appelle Espaciel. Merci Alexis Hervé d'être venu nous la présenter.
Avec plaisir.
Nicolas Chabanne, à bientôt.
À bientôt.
Sur Europe 1, évidemment. Nous, on se dit à demain. Maude, on va mettre des sous de côté demain parce que c'est la journée mondiale de l'épargne et vous verrez que des Français ont inventé des solutions. Enfin, pour nous
Merci.
Aider.
Merci. Merci Raphaël. On vous retrouve demain, bien sûr, à partir de 13h sur Europe 1. Dans un instant, dans 5 minutes à 14h pile, vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Christophe Ondelat et ses récits incroyables. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter une histoire d'amour, sauf que c'est une histoire d'amour tardive. Quand ils se rencontrent, mes deux personnages, Suzy et Georges, ont 60 et 74 ans.
De la douceur, de l'amour, de l'espoir. Eh bien, quel programme avec vous, Christophe Ondelat. C'est à 14h pile sur Europe 1.